RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nos trois GG, Emmanuel Devilliers, chef d'entreprise, Sam Zira, le créateur de contenu, ses 6 millions d'abonnés, et nous sommes avec Marin Lefebvre, l'enseignante. C'est la troisième heure des GG, la troisième heure des grandes gueules. De quoi va-t-on parler au cours de ces 60 minutes à venir? D'abord, tiens, petit message. Si vous avez raté le début de l'émission ou si vous ratez l'émission aujourd'hui, ce qui peut arriver, vous avez les podcasts à votre disposition. C'est-à-dire, vous reprenez l'émission dans son intégralité. C'est la session de rattrapage. Et puis, vous avez toutes les petites discussions qu'on peut avoir pendant la pub. Et puis là, on avait une discussion sur nos GG hypochondriaques. Qui sont-elles? Qui sont-ils? Quels sont leurs tics ou leurs tocs? Je vous laisse découvrir ça sur le podcast des GG des Grandes Gueules sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Ça vaut son pesant. La troisième heure des Grandes Gueules, nous allons revenir sur Coluche 40 ans après sa mort. Est-ce que certains sketchs de Coluche pourraient être encore diffusés aujourd'hui? On reparlera de ce qui s'est passé à Ivry-sur-Seine avec l'élu du Rassemblement National, Kevin Nader, qui a fait un « Je vous salue Marie » pour protester contre la présence de deux femmes voilées au conseil municipal. Il dit « C'est la laïcité à géométrie variable », c'est ce qu'il a dit au maire communiste. On va d'abord s'intéresser à une loi qui est née après un meurtre terrible, le 21 septembre 2024, le meurtre de la petite Philippine par un ressortissant sous OQTF, un ressortissant marocain. C'est le député Charles Rodwell qui veut qu'on puisse aujourd'hui rallonger le délai de rétention des étrangers qui sont sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'on puisse rallonger leur délai dans les centres et qu'on le passe à 210 jours.
Pourquoi la loi Philippine? Parce que Philippine, c'est le nom de cette étudiante, le prénom de cette étudiante assassinée en septembre 2024 par un ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et qui avait été libéré quelques jours avant d'un centre de rétention administratif. Et on estime qu'en France, il faudrait allonger la durée maximale de rétention pour pouvoir traiter ces dossiers et ne pas relâcher dans la nature des étrangers qui ont été condamnés pour des faits graves et considérés comme dangereux. Alors une première version avait été votée, c'était Bruno Retailleau qui défendait cela, mais ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel en août dernier, ça avait été censuré. Donc là, ça revient à l'Assemblée. Ils ont un peu rectifié le tir pour que le texte me passe. Il est porté par le député Renaissance Charles Rodwell. Et la mesure principale, c'est donc d'allonger jusqu'à 210 jours la durée maximale de rétention administrative. Aujourd'hui, c'est 90 jours. 210, d'ailleurs, c'est ce que font les Allemands, beaucoup de pays en Europe. Mais pour l'instant, nous, on ne peut pas à cause de cette censure du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, on ne comprend pas pourquoi des magistrats d'opérette ou des magistrats de métier, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui leur a donné le droit d'empêcher la France d'avoir des lois correspondant aux besoins de la situation? C'est complètement incroyable. Et les Français s'en rendent compte parce qu'avant on n'en parlait pas. Il faut ou les mettre au pas ou supprimer ces instances, à commencer aussi par le Conseil économique et social, qu'on a vu le maintenant du terme environnemental pour faire joli dans le paysage, qui est un truc pour placer les copains quand ils ont plus de boulot. Mais toutes ces cours juridictionnelles, c'est aux Français de décider. Par les votes, on est encore en démocratie, il faut fermer ces trucs-là. Moi, je connais un membre du Conseil constitutionnel qui est une nullité totale.
Ah. Quel est son nom?
Voilà, je peux pas le donner, sinon je vais avoir des soucis.
Il y en a qu'un?
Je ne connais personnellement. Non, le problème qu'un. De ma statistique, c'est que je n'en connais qu'un. Déjà, personnellement, depuis 40
déjà,
ans.
Déjà, on peut le nommer le président du Conseil constitutionnel.
Monsieur Richard Ferrand
n'a aucune compétence de droit.
C'est un ami.
Oui, c'est un ami du président, mais enfin, il n'est pas ni juriste, et encore même juriste, enfin, il suffit, faut pas être juste juriste après, pour être Laurent, président du Conseil constitutionnel.
Laurent Fabius n'était pas juriste.
Le Conseil constitue, on le sait, c'est un lieu éminemment politique, oui, qui n'a strictement rien à voir avec un regard neutre sur les lois votées.
Il y a des ordres qui sont donnés. Sur l'allongement, je vous rappelle
quand même. Oui, mais l'allongement de la rétention. Mais je vous rappelle quand même que lorsque des lois ont été votées, notamment des lois votées sous à l'époque de Monsieur Retailleau, Monsieur Macron s'est empressé derrière de l'affaire dégoupillée par Richard Ferrand précisément. Donc on voit bien que le Conseil constitue est en pilotage sur ces questions-là. Là aujourd'hui, cette loi, elle est nécessaire. D'abord aussi pour nous mettre à l'échelle européenne. Monsieur Macron aime tant l'Europe. Alors il faut qu'on s'aligne aussi sur le reste de nos partenaires. La plupart de nos partenaires sont sur 200 jours de rétention. Ouais. Pourquoi nous on se mettrait pas pour une fois en harmonie avec nos partenaires européens, lui qui aime tant son truc de la souveraineté européenne. Et ben voilà, qu'il soit cohérent. Maintenant,
est-ce que la vraie question, c'est pas la lenteur du traitement des dossiers et le fait qu'on n'arrive pas à renvoyer ces ressortissants dangereux dans les pays d'origine.
Les laissez-passer consulaires, on ne se donne pas les moyens du bras de fer, puisqu'on nous a expliqué le bras de fer, c'est pas bien. Moi, je connais beaucoup de bras de fer qui marcheraient très bien. Ça s'appelle l'aide au développement. Quick, quick, il n'y en a plus. Les visas, quick, quick, il n'y en a plus. Et quand vous voudrez bien reprendre vos OQTF, on verra peut-être si on rouvre les visas. Mais sauf que ça, on ne le fait pas. Alors, parce qu'il faut continuer à être généreux avec des gens qui, eux, ne font pas de retour.
Donc, solution, selon moi, ce ne sont pas les 210 jours. Le problème, et ce qui choque, c'est qu'à chaque drame, on finit de toute façon toujours par découvrir que l'auteur, il était connu, qu'il était signalé, qu'il était en l'occurrence, en effet, parfois sous OQTF, parfois même condamné, et que pourtant, rien n'a été fait. Alors, la colère des Françaises et des Français, elle est légitime. Je la comprends, cette colère. On demande aux citoyens de respecter les règles. On demande aux citoyens de payer leurs impôts. On leur demande de respecter les lois. On leur tape dessus à la moindre petite incivilité ou autre petit larcin. L'État, il est en train de perdre en crédibilité. C'est pas un problème de droite, c'est pas un problème de gauche, c'est un problème d'application des lois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on crée encore une nouvelle loi pour appliquer une loi qui existe déjà. Marche sur la tête.
Il faut mettre au pas ces juges d'opérette qui empêchent les Français d'avoir les règles qu'ils souhaitent.
Il faut y aller carrément.
Il y a deux choses.
Ça me dit que c'est ni de droite ni de gauche, etc. Mais tu verras que cette loi philippine, elle ne sera pas votée par une certaine partie de l'hémicycle, qui par ailleurs réclame la loi intégrale sur la question, la loi cadre sur la question des violences faites aux femmes et aux enfants. Et ceux qui défendent la loi intégrale viendront nous expliquer que, ah oui, non mais pas pour l'histoire de la rétention administrative des criminels sous OQTF. Et ça, je l'ai vu parce que j'ai entendu quelques-unes de certaines...
Chacun choisit ses causes.
Certains qui se mobilisent tout d'un coup là pour l'affaire de Liana, qu'on n'a pas entendu sur Lola ni sur Philippine. Et vous verrez, là, et c'est pour ça que c'est très bien que Charles Rodwell ait remis sa loi à ce moment-là, parce que d'abord, c'est dans un contexte, mais ils sont tous sur la loi intégrale, mais là, on les entend pas sur la loi philippine.
Mais c'est un problème d'autorité d'État.
Non, c'est un problème de deux poids, deux mesures, et qu'il y a un certain nombre de faits, d'atteintes sexuelles qui ont été faites, parce que Philippine, elle a été agressée également, sexuellement, donc, et on parle même pas de Lola. Ouais. Et là, tout d'un coup, il y en a certains, ils ont pas trop envie d'aborder ces sujets-là, et à l'époque, fallait pas faire de récupération. Donc maintenant, tout le monde y va, mais Barbara, à l'époque, fallait tout d'un coup être très respectueux
Barbara,
du silence
constat,
et du recueillement.
Si on fait un constat juste factuel, 2017, affaire Maïlis, 2021, le féminicide de Mérignac, 2023, l'INSEE, 2024, Matisse, Philippine, on est en train d'en parler, en 2024, 2026, Liana, ce qui les relie, ces affaires, c'est pas qu'elles se ressemblent, mais c'est qu'à chaque fois, il y avait des signaux, à chaque fois, il y avait des alertes, à chaque fois, systématiquement. Et ça, c'était sous qui? C'est sous le gouvernement Macron.
C'est ça qui exaspère les Français. C'est effectivement, quand il s'agit de personnes qui ont déjà été repérées, condamnées, c'est incompréhensible.
Et oui, mais il y a trop de droits de la défense, trop d'avocats, trop de recours, trop de degrés de juridiction.
Trop de lenteur aussi.
Il faut tout simplifier maintenant. Il faut y aller à la serre. Il faut changer toutes ces lois.
De lenteur, et n'oublions pas non plus, de refus d'expliquer aux familles de victimes pourquoi ces dysfonctionnements. Je rappelle que la mère d'Elias continue à demander à voir les magistrats qui ont traité l'affaire des deux assassins de son fils. Et certains de ces magistrats...
Il faut rappeler pourquoi elle veut les voir.
Elle veut les voir pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont, à plusieurs reprises, refusé de mettre ces jeunes à distance l'un de l'autre. Et pourquoi ils ont même fait des contrôles judiciaires alors qu'ils savaient qu'ils habitaient l'un avec l'autre, en face l'un de l'autre. Et elle racontait, la maman d'Elias, elle disait qu'il y avait des magistrats qui voulaient lui parler, qui voulaient lui expliquer. Mais c'est les deux principaux magistrats du parquet qui refusent qui lui ont expliqué que non, c'était pas bien qu'elle voit maintenant les magistrats. Donc on voit bien aussi qu'ils ont du mal à rendre des comptes. Et ça, c'est légitime aussi, hein, que derrière, on comprenne ce qui s'est passé.
Le fait qu'on les connaisse avant, comme le souligne Sam, c'est tout le socle de nos problèmes en France. Il y a 90% des Français qui sont d'accord, c'est l'impunité.
Eh oui, l'impunité. Il y a plusieurs... C'est l'impunité de tous, à tous les niveaux, à toutes les échelles.
Oui, mais il y a deux choses, c'est-à-dire que là, même si tu portes à 210 jours, oui. et que derrière, la personne oui. n'est pas raccompagnée,
ah,
et qu'elle sort, c'est d'abord... Comment tu,
qu'est-ce, on n'a pas réglé le problème.
Mais surtout, comment tu t'occupes de ces gens-là à l'intérieur même du centre de rétention? Parce que beaucoup, ils sont sur des profils psychologiques qui sont perturbés.
Alors, il y a des injonctions psychiatriques dans la loi prévue aussi.
Oui,
alors,
c'est voilà, ça. C'est oui. ce, bah, puisque, déjà, il n'y a pas assez de...
Oui, mais comment tu appliques l'injonction psychiatrique?
Bah, déjà, ça,
c'est le problème. Déjà, en prison, on voit qu'on a du mal à s'occuper des prédateurs sexuels, des pédocriminels. Donc là, comment tu vas faire?
La loi, elle ne résout pas grand-chose parce qu'elle se donne plus de temps. C'est-à-dire que 110 jours, ça permet peut-être à la justice de se prononcer, de trouver le laissez-passer consulaire quand il s'agit d'une personne qu'il faut accompagner dans son pays. Mais c'est vrai que ça ne résout pas le problème.
L'Europe vient de prendre une grande décision là. La loi, elle a été votée à l'échelle européenne. D'ailleurs, en partie sous l'impulsion de François-Xavier Bellamy, qui a fait un excellent travail et qui travaille sur ce sujet depuis des mois et des mois. Aujourd'hui, l'Europe va organiser de façon beaucoup plus minutieuse les possibilités de la poursuite de la rétention dans des pays tiers. Et ça va rentrer en œuvre rapidement. Oui,
d'accord. Sauf qu'ils n'arrivent déjà pas à le faire chez nous sur notre territoire.
Non, mais après les 210 jours, au revoir. C'est-à-dire, ils iront dans des... Non, mais ça va être fait. L'Albanie a déjà dit OK. Le Rwanda, ils attendent toujours.
Oui, mais alors ça va être fait. On dit ça, mais...
Eh bien, il faut que ce soit fait. Monsieur Macron aime l'Europe. Alors non, là-dessus, vous allez le voir, on l'entendra plus.
Laissez-passer consulaires, je me souviens des promesses.
Mais moi, je sais comment les avoir, les laissez-passer consulaires.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Coupe-leur les visas et l'aide au développement, tu vas voir que tu vas les avoir.
C'est pas si simple que ça, parce que c'est des pays avec qui on commerce. Mais oui.
Je m'en fiche. Plus de visa.
Si on n'a pas le gaz algérien, on sera bien emmerdé.
Eh ben, plus de visa quand même.
Tu chopperas comment cet hiver?
Mais pourquoi
on sera emmerdé? Parce qu'on s'est mêlé de l'Ukraine et on s'est coupé des approvisionnements russes alors qu'on n'avait pas
de pays. J'aurais préféré que Lola soit encore vivante que d'avoir le gaz.
La solution, c'est pas d'embrasser sur la bouche Poutine, pardon.
Mais ça n'a rien à voir.
Ben
c'est
si.
En se mêlant de tout avec des grands principes, en faisant vacciner les gens alors que ça sert à rien, on arrive à des gros ennuis, évidemment.
On s'est mêlé aussi de l'affaire du Sahara occidental.
Le Sahara occidental, c'est sûr qu'Emmanuel Macron n'est pas obligé.
Le Sahara occidental, en ce qui concerne l'Algérie,
partout où il a mis le nez en termes de diplomatie, il nous a mis dedans. Partout, dans tous les sujets. Résultat, même regardez Trump, alors que, en plus, être méprisé par Trump, vous me direz, on s'en fout un peu, parce que voilà, il a le mépris en plus à géométrie variable, mais peu importe. Sur tous les choix diplomatiques, trouvez-moi un choix diplomatique où Macron a fait la fierté de la France. Rien.
Et là, recevoir Trump en grande pompe à Versailles.
Mais oui, mais
c'est
on
un
s'en
bon choix diplomatique.
Ça, ça va rien changer.
Mais non,
mais ça
change
rien dans
sa politique
diplomatique.
Il y a des problèmes avec le pétrole. On en parlait en introduction aujourd'hui. Et excusez-moi, aujourd'hui, on devrait avoir des dédommagements et des États-Unis et d'Israël, pardon, mais qui sont responsables de toute cette guerre.
Non, c'est les Iraniens qui sont responsables. C'est les Iraniens qui ont massacré leur peuple.
C'est pas eux qui ont commencé.
C'est les Iraniens qui ont massacré le peuple iranien et c'est les Iraniens qui ne respectaient pas. Ah, tu ne connais pas le sujet, c'est les Iraniens qui ne respectaient pas les enjeux nucléaires.
On va pas refaire le match.
C'est eux qui ont armé tous les proxys. C'est eux qui ont du nucléaire caché. Excuse-moi,
c'est les Iraniens. Alors, champagne, caviar, feu d'artifice à Versailles, alors que les personnes ont besoin de 100 euros pour payer leur essence et qui travaillent pour payer leur essence et que ça servira à rien.
Toi qui es influenceur à propos de Versailles, on voit bien que dès que la France veut se mettre en valeur, elle fait appel à l'ancien régime, aux grandeurs de la France.
Mais là, c'est une question de temps. Moralité. C'est lui qui nous a tous foutus dans la merde avec sa guerre qui a servi à rien.
Toi qui es influenceur, la priorité des priorités, si j'étais influenceur, ça serait de demander la repentance pour l'assassinat du roi Louis XVI et de la reine. Voilà ta priorité.
Un petit peu moins que tu as.
Il s'en est jamais remis. Ça fait 500 ans.
Ça fait 500 ans
et il s'en est toujours pas remis.
Non, mais il faut reconnaître que quand on veut faire plaisir à un inviter et montrer la grandeur de la France, on va où? On va au château de Versailles.
Pas, Jean-Michel
on va à l'Élysée, on va au Palais Bourbon, on va au Sénat. Là. Toutes les grandeurs de la France, les 800 ans de la royauté française depuis l'instauration du Capet.
On invite le responsable qui nous a tous foutus dans la merde.
Voilà un boulot pour toi en tant qu'influenceur.
Et qui fait que les Françaises et les Français et que l'international payent son essence beaucoup plus cher.
C'est les Iraniens qui ont bloqué le détroit d'Ormuz, c'est pas Trump, je suis désolée. C'est les Iraniens les responsables, c'est le régime des Mollahs. C'est le régime des Mollahs.
Les États-Unis et Israël sont responsables exactement de ce qui se passe.
Revenons sur la loi Philippine, s'il vous plaît. On va écouter Yannick qui est avec nous au 32-16. Bonjour Yannick. Yannick du Loiret. Bonjour, bienvenue.
Et de Bretagne.
Et de Bretagne. Bah moi j'ai le Loiret sur l'affiche, mais bon allez, on va dire le Loiret, la Bretagne. On va les jumeler pour vous faire plaisir, Yannick. Qu'est-ce que vous en dites alors de cette loi Loire-Rodwell? Dites-moi.
Ce que je disais à votre collaborateur en ligne, c'est que c'est pour moi une décision qui ne peut être prise qu'au niveau européen. Chaque pays ne pourra jamais régler ces problèmes d'immigration, du fait que déjà les gens qui sont dans la misère, ils feront tout pour arriver. Mmh. Et que pour, à la limite, pour des cas particuliers, on peut se protéger. Mais pour régler le problème, la loi ne fera rien, même si elle est européenne. Mais le seul moyen d'obtenir quelque chose, c'est que ces lois soient européennes et qu'elles s'imposent à tous les pays en même temps et partout.
Bah, c'est un peu ce que disait Barbara tout à l'heure. L'Europe, c'est se mettre d'accord sur des choses qui n'ont aucun intérêt.
Pardon, mais Emmanuel Macron, qui a été beaucoup critiqué dans cette émission, là, pour le coup, il, sur ce sujet-là, il a raison de dire que c'est à l'échelle européenne. L'immigration, on peut pas fixer des règles différentes à chaque pays. Il faut une règle commune et une protection commune et des frontières communes.
Ce n'est pas Monsieur Séjourné, ce n'est pas le parti européenne. Ce n'est pas Renew qui a porté ça au Parlement européen. François-Xavier Bellamy.
Charles Rodwell est d'un député Renaissance.
Non, mais tu me parles de l'Europe. Tu me dis. Macroniste. Non, excuse-moi. Tu me dis. Macron dit qu'il faut que ce soit porté à l'échelle européenne. Oui, c'est ce qu'a fait François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy n'est pas Renew, que je sache.
Charles Rodwell vient de la droite. Il avait rejoint les macronistes.
Entre Bellamy et Macron, il n'y a aucune convergence. Dieu merci.
Restez avec les GG. Merci à Yannick d'avoir été des nôtres. Faut-il rallonger la rétention des étrangers dangereux? Centre dans les CRA, comme on dit, les centres de rétention administratif. Oui ou non, vous dites oui à 97%. Suite des GG, des grandes gueules. Dans un instant, on va aller du côté du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine avec une bagarre autour de la laïcité. Deux élus qui sont voilés. Et un élu du Rassemblement National qui demande à ce qu'on fasse respecter la laïcité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'élu voilé au conseil municipal. Il se prend le bec avec le maire. Et du coup, que fait-il cet élu du Rassemblement National? Il récite au sein du conseil municipal un « Je vous salue Marie ». Un peu par bravade et un peu pour démontrer que c'est la laïcité à géométrie variable. Vous venez commenter ça avec les grandes gueules, il est 11h.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
On va, avec les GG, avec les grandes gueules, on va vous emmener au conseil municipal d'Ivry. C'était jeudi dernier, jeudi 11 juin. C'était lors d'une réunion au conseil municipal. On a le maire qui est là, maire communiste. On a deux élus voilés et on a le conseiller municipal du Rassemblement National, Kevin Nader. Donc, Ivry-sur-Seine, séance plutôt agitée du conseil municipal. Écoutez, regardez.
Je suis fier d'être ici, d'être élu avec mon voile.
Donc, je ne vois pas pourquoi les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Et moi, je suis fier de l'assemblée communale, de la diversité qui la compose et de la présence parmi nous de Fenda.
Dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant. Et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse.
Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement.
Oula. Alors, on n'a pas entendu la prière, mais il y a eu un « Je vous salue Marie » oui, aussi de la part de l'élu Kevin Nader.
Oui, l'élu du RN Kevin Nader est provocateur. Alors lui, ce qu'il voudrait, c'est de faire voter un amendement pour réviser le règlement intérieur du conseil, parce que jusqu'à présent, il n'est pas interdit une femme voilée de siéger au conseil municipal. L'élu voulait donc réviser ce règlement, puisqu'il y a deux élus de la majorité de gauche, la conseillère Estelle Boufala et l'adjointe au maire Fenda Diarra, qu'on a vu sur les images, qui effectivement siègent en abhorrant un voile islamique. Donc l'élu voudrait rectifier tout ça. Le maire lui a dit non, qu'au contraire, c'était la diversité.
le ton est monté. L'élu du RN a dit donc, bah, puisque c'est comme ça, moi je brandis une croix. Et alors là, ça, ce qui est amusant, c'est ça a provoqué la colère du maire communiste. Là, du coup, on avait l'impression qu'il avait blasphémé. Donc, il était moins énervé sur le voile que sur la croix chrétienne. Bref, on est donc dans une polémique très franco-française sur la laïcité. Alors, qui a raison dans cette histoire, Sam?
Attends,
je voudrais commencer par Sam.
Alors déjà, c'est important, et tu l'as dit, Olivier, les élus, les députés, les sénatrices, les maires, les conseillères municipales, les conseillères régionales, elles ne sont pas soumises. Ils ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse qui est imposée, par exemple, aux fonctionnaires. Donc, elle avait le droit de porter son voile. Et lui, il avait le droit de fermer sa gueule, cet élu du RN. Et s'il voulait faire changer les textes ou faire changer la loi, il fallait l'ouvrir.
C'est ce qu'il voulait faire.
Eh ben, c'était pas là qu'il fallait le faire. Il fallait pas maltraiter cette femme qui avait le droit de porter son voile. Par contre, lui, avec ce côté très provocateur de sortir une croix et de faire un « Je vous salue Marie », moi j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé si une personne avait fait ce qu'il avait fait, avait sorti son tapis, s'était mis en direction de la Mecque et avait fait une prière? Je peux vous assurer que ce serait alerte rouge sur toutes les matinales, dans tous les JT.
Non, le maire l'aurait félicité.
Non, je pense pas, parce qu'il y a une différence entre provoquer avec un « je vous bénis à tous » en sortant un objet religieux et un voile.
Ah, parce que le voile islamique, c'est pas un objet religieux.
Non, c'est pas un objet religieux, c'est un vêtement.
C'est une neutralité.
C'est un vêtement. Chaque femme décide de ce qu'elle met sur la tête ou de ce qu'elle ne met pas sur la tête.
Va dire aux femmes iraniennes que c'est un signe d'émancipation féminine.
Nous sommes pas en Iran, madame.
Doucement. On débat dans le calme.
Ah si, dans certains coins, on est pas en Iran.
Là où il y a peut-être une ambiguïté, moi je ne savais pas, non. C'est qu'apparemment il y a eu une modification.
Je voulais dire.
Tu voulais dire, alors je te laisse dire, vas-y Barbara.
Alors, bien sûr, il y a une différence. Un élu local n'est pas un agent administratif. Les agents administratifs sont tenus à la stricte neutralité. Le statut des élus locaux, il est spécifique, mais il a été renforcé par la loi de 2021 sur la question des principes de la laïcité, et il a été écrit dans la loi, donc la loi de 2021, que lorsqu'il agit en tant que représentant de l'État, donc par exemple un élu local dans le cadre de la célébration d'un mariage, donc cette dame-là, l'adjointe, si elle célèbre un mariage, elle a intérêt d'enlever son voile parce que c'est interdit par la loi.
Mais elle ne célèbre pas un mariage.
Lors du conseil municipal, lors d'une commémoration locale, elle doit tout élu local doit être strict dans sa...
Elle avait le droit de porter des voix dans le cadre de son exercice.
C'est réaffirmé par la loi. Et d'ailleurs,
donc là,
je veux juste terminer.
Non, mais là, il s'agissait d'un conseil municipal.
Elle n'a pas le droit. Au regard, la charte des élus locaux de 2021, dans le cadre de la loi du rappel des principes...
Mais foutons la paix à ces femmes.
De la rappel des principes de la laïcité.
Pourquoi c'est élu?
Et c'est d'ailleurs pourquoi Gilles Platret l'a réintégré lui aussi dans son règlement intérieur, et ça a été validé par le tribunal administratif.
Barbara, d'accord. Une fois que tu auras donné le florilège de toutes les lois...
C'est important.
Excuse-moi, je veux juste être précise maintenant, si tu veux qu'on fasse du café de commerce...
C'est le fond. Est-ce que de manière raisonnable, cette femme, avec le port qu'elle avait de son voile, qui était particulièrement visuel et spectaculaire, avait lieu d'être réalisée dans le cadre du conseil municipal? Sans doute non. Maintenant, allons au fond sur cette histoire de la réponse de M. Nader. Il s'est fourvoyé parce qu'il avait raison sur le fond, mais tort sur la forme. Moi qui suis catholique pratiquant, on va pas déclamer le Je vous salue Marie face à un communiste en plus, plutôt à une allure de directeur de goulag que de maire, dans ses manières de réagir autoritaire.
Pardon, mais on ne donne pas des cours de laïcité en ne l'appliquant pas soi-même. Là, on est sur du deux poids, deux mesures.
Il a voulu faire une provocation.
Sur des responsables politiques qui donnent des leçons, mais qui ne les appliquent pas à eux-mêmes. La laïcité, c'est soit elle est pour tout le monde, soit elle n'existe pas. En Angleterre, on devrait s'en inspirer un peu plus. Moi, j'ai vu des pièces de théâtre avec des actrices voilées.
Oui, mais ça pose
problème à personne. Avec des Indiens qui ont des turbans, ça pose problème.
Oui, puis avec des Sikhs qui ont des poignards et comme ça, ils tuent Henri Novak.
En France aussi, on a un gros problème ici avec le melting pot. On n'a pas réussi. On a échoué.
Oui, mais on n'est pas en Angleterre.
On n'est pas prêt à tout accepter non plus et pas le racisme anti-blanc au passage.
On n'est pas en Angleterre. On n'est pas en Angleterre. La laïcité à la française, elle a une histoire. Les Français sont très attachés au principe de laïcité. Tu regardes encore toutes les dernières enquêtes. Les Français sont hyper attaché au principe de laïcité parce que justement c'est la neutralité, c'est le color blind et c'est le religious blind.
Pas ce député LR est vraisemblablement.
Non, tu n'as pas. Je pense que tu ne comprends pas qu'il a voulu agir en provoquant, en disant puisque l'une
on dirige
ne vous
par
dérange
l'exemple,
pas.
Barbara.
Maintenant, je veux
on
juste te dire une chose.
Pas en même temps.
Sa réaction a été une erreur. On n'a pas utilisé.
Je veux te donner juste une information. Je veux donner juste une information qui peut permettre de comprendre aussi pourquoi Kevin Nader est particulièrement sensible à la question du communautarisme et de l'entrisme. Il est d'origine libanaise. Et je pense que, en tant que Libanais, il sait où a mené un État multiconfessionnel qui a instauré le multiconfessionnalisme à l'intérieur même du système constitutionnel libanais et qui a mis le Liban dans l'état de déréliction où il se trouve aujourd'hui. Ils savent même plus comment s'en sortir. Et maintenant, ils prient tous pour que justement, ils veulent sortir du communautarisme et du multiconfessionnalisme. Alors, ils veulent enfin créer une nation qui soit aconfessionnelle. Et je pense que Kevin Nader, quand il a fait ça, il a pensé aussi, en tant que franco-libanais ou d'origine libanaise, à ce que c'est le danger du communautarisme. Donc moi, je le soutiens. C'était purement provocateur. Et il a eu raison de montrer que c'est deux poids, deux mesures. Qu'une femme voilée, oui, c'est-à-dire qui incarne l'inégalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a que les femmes qui doivent être pudiques. Les hommes dans le monde musulman n'ont pas besoin d'être pudiques, comme d'ailleurs ça vaut pour les autres religions.
Je suis désolée. Si on peut en placer une, là où il fait une erreur, c'est qu'il fait une prière. La conseillère n'était pas en train de prier. Donc la réponse,
Olivier, s'il te plaît,
L'équivalence du voile aurait été le port d'une croix, point barre.
Oui, voilà.
Bah, il a montré la croix. Il aurait peut-être pas dû faire le « Je vous salue Marie », mais il avait montré la croix.
Non, l'équivalent du voile aurait été de porter une perruque pour une femme d'une autre confession.
Oui, aussi.
Oui, bah, en l'occurrence, il n'y a pas un homme avec une kippa ou une femme orthodoxe avec une perruque au conseil municipal, parce que je pense que le maire communiste.
La perruque, je pense que ça n'aurait pas dérangé.
Oui, mais le monsieur qui a la kippa, il aurait dit de l'enlever. Le maire communiste.
Il faut reconnaître quand même que le maire communiste devient tout rouge, si j'ose dire.
Il lui dit que c'est un geste criminel.
Lorsque tout d'un coup, le jeune Kevin Nader aborde la croix, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu deux poids, deux mesures, sans doute, sur un maire communiste. Qui est souvent d'ailleurs accusé de communautarisme. Il y a des polémiques autour de ce maire qui a été réélu à Ivry-sur-Seine parce qu'il a une population effectivement assez diversifiée et on lui reproche d'aller draguer ici ou là les communautés pour être élu.
Et la dame aussi aurait dû faire preuve d'un peu plus dans l'honneur qui lui est fait d'être au conseil municipal pour lequel elle a été élue, bien sûr. Aurait dû faire preuve d'un peu plus de mesure, elle aussi.
Et quelle mesure ?
Une personne intelligente.
De toute façon.
Voilà, forcément un caractère provocateur dans un conseil municipal.
Mais provocateur sensibilité. Pour qui ? Provocateur pour vous ?
C'est pour les Français.
Mais vous êtes provoqué par un bout de tissu. Au bout d'un moment,
pas
faut
un
se remettre
tissu.
En question.
C'est pas un bout de tissu, c'est un signe religieux porté dans un sens religieux.
Oui, qui va toujours dans un sens.
Et
c'est toujours sur les
et
mêmes comptables. Elle a raison d'être fière, cette dame.
Ça incarne un certain statut de la femme. Ça incarne un certain statut de la femme. Et en tant que féministe, on peut être désagréablement heurté par le fait qu'une femme porte un signe qui montre son infériorité vis-à-vis des hommes, car c'est ça le voile
islamique.
Attendez, je voudrais qu'on aille écouter Bernard qui est du côté de la Saône-et-Loire. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Que pensez-vous de cette polémique à Ivry alors du coup ?
Eh bien écoutez, moi ce que je pense, c'est que déjà je vais bien donner raison à Barbara, déjà.
On est étonnés.
Et puis, vous savez, il y a le maire de Chalon-sur-Saône, vous pouvez vérifier, le maire de Chalon-sur-Saône, dans toutes ces réunions, il a interdit le voile et il a gagné au tribunal.
Oui, c'est Gilles Plattret.
Voilà, c'est ça, c'est exact. Et je trouve que c'est très bien parce que aujourd'hui en France, il n'y a absolument plus rien de respecté. On ne respecte plus rien. Ça veut dire que la personne, il ne faut pas avoir une croix autour du cou. Par contre, la personne, elle peut avoir un voile, ça ne dérange personne. Ça dérange là, par contre, ça ne dérange personne. Alors, j'aimerais bien comprendre, et je ne suis pas du tout d'accord avec la personne qui a commencé le débat tout à l'heure, je ne sais pas son nom, qui est pour, et je trouve, mais je ne le comprends même pas, lui. Lui, je ne comprends même pas sa façon de raisonner, je ne sais pas, je sais pas, on dirait qu'on est anti-français, on devient anti-français.
Ah non, en quoi c'est anti-français ? Peut-être que vous êtes anti-autre religion, c'est peut-être ça le problème, et peut-être que le problème, il vient de là.
Ah, pas du tout.
À la rigueur.
Pas du tout.
Parce que le manque de tolérance, vraisemblablement, il vient de chez vous, monsieur. Pas de chez moi. Étonnamment, j'ose imaginer, je pense savoir pour qui vous allez voter en 2027. Ça s'entend dans votre voix, monsieur.
Oui, mais c'est possible.
Ah, bah oui. Et c'est pas étonnant.
Je peux vous dire oui.
L'intelligence émotionnelle, elle vous manque un petit peu, comme beaucoup.
Ah, là, j'ai un gros doute. Par contre, il faut essayer de rester poli.
Ah, mais en quoi j'ai été mal poli? Je parle d'intelligence émotionnelle.
Je trouve que, si vous êtes un petit peu.
Sois pas méprisant.
Voilà, vous êtes un petit peu sur le.
Non mais Bernard, pour Sam,
oui,
Bernard,
parce que ces personnes se font taper dessus du matin au soir par des gens comme
Bernard,
vous.
Voilà. Sam est resté bloqué en 1989. Il croit que le voile islamique n'est qu'un bout de tissu, comme nous avait dit à l'époque Lionel Jospin au moment des collégiennes de Creil. Des enseignants se sont battus pendant 20 ans, des gens de gauche se sont battus pendant 20 ans pour qu'on aboutisse à la loi qui interdit les signes ostentatoires à l'école.
C'est un faux combat.
Le voile islamique n'est pas un bout de tissu qu'on met sur la tête et que les femmes portent librement. C'est un signe d'asservissement de la femme. Et la preuve en est, la plupart des femmes dans les pays musulmans qui le portent, elles veulent l'enlever, elles en ont marre d'avoir à subir. Alors maintenant, en France, on nous a expliqué que c'était tendance, que c'était de l'émancipation. Le hijab à Sciences Po, bah désolé, la propagande des frères musulmans, la propagande de l'islam politique, on la gomme.
Moi, c'est la même chose.
Bah, tu sais pas faire la différence entre un signe religieux
et si demain j'ai envie de porter un foulard. Si demain je porte un voile,
Bernard, merci d'avoir été avec nous.
Il faudra que tu te convertisses avant quand même.
Non, dans un instant.
Sinon, t'auras l'air un peu ridicule.
Dans un instant, c'est pour de la couleur, tu mets une jolie couleur ou des fleurs dessus ou quelque chose.
En fait, tout dépend ce qu'on y voit, c'est tout. Je pense que c'est juste une question de perception.
Dans un instant, on va finir en parlant de Coluche. Coluche, ça fait 40 ans qu'il est mort, Coluche, dans cet accident de moto dans les Alpes-Maritimes. Il y a certains sketchs aujourd'hui, quand on leur écoute, on se dit « Ah ouais, quand même, c'était de l'humour, ça allait loin. Est-ce qu'il pourrait les faire encore aujourd'hui ?» C'est au 32-16 que ça se passe.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. C'est avec le créateur de contenu, Sam Zira, avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, avec l'enseignante Barbara Lefebvre. On va terminer en s'adressant un peu au passé, voir si ce passé est toujours d'actualité. C'est Coluche.
Monsieur le juge, je n'ai pas violé. Pas plus que les autres. Et puis, je vous fais remarquer que violer, c'est quand on veut pas. Moi, je voulais, moi.
Les étrangers devraient comprendre une chose. Il vaut mieux être en bon état de santé qu'en mauvais état d'arrestation. Les Russes sautent haut, les Noirs courent vite. C'est la police qui les entraîne dans les deux cas. J'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts.
Putain, c'est trop con, ce putain de camion. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Putain de vie de merde.
Putain de camion, c'était la chanson de Renaud après la mort de Coluche qui s'est tué dans un accident de moto dans les Alpes-Maritimes. Sa moto, il a percuté effectivement un camion. Mais ça donne l'occasion, c'était en 1986, en juin 86, de réécouter Coluche aujourd'hui et de se dire, est-ce qu'il pourrait encore nous faire marrer comme il le faisait avec ses sketchs?
Moi, je suis comme toi, on fait partie de cette génération qui a grandi avec Coluche, avec les sketchs de Coluche. Moi, je me souviens, j'avais des cassettes, j'avais le vinyle, j'écoutais en boucle ses sketchs et il me faisait marrer. Moi, ce que j'aimais chez Coluche, contrairement peut-être aux humoristes d'aujourd'hui, c'est que certes, il balançait sur tout le monde, mais il n'était jamais, comment dire, agressif. Et diffamant, c'est-à-dire que tout le monde en prenait pour son grade, et donc on riait, il se moquait des policiers, de tout le monde. Aujourd'hui, on a un humour qui est très agressif, très politisé, et qui est parfois excluant. Alors que Coluche, il faisait pas de politique, il était très anarchiste en fait, Coluche. Donc tout le monde en prenait pour son grade, la gauche, la droite, etc., les fonctionnaires et autres. Voilà. Et peut-être c'est ça qui manque aujourd'hui. Et est-ce qu'il aurait sa place? À mon avis, non, parce que on lui sommerait de choisir un camp. C'est on ça. Lui sommerait de choisir des causes. Alors que, au contraire, Coluche, ce qui avant tout, ce qu'il voulait, c'était faire marrer les gens.
Les réseaux sociaux, auraient malheureusement polarisé Coluche. Il aurait été obligé, en effet, comme tu dis, d'être dans un camp, de choisir de façon extrême ou pas. D'ailleurs, ces sketchs, il n'y a pas d'équivalent, je trouve, à Coluche aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en aura encore. On a vu
même
un cas
dans les comédies, même dans les comédies clubs ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'équivalent
à Coluche. Non. Aujourd'hui, les artistes, les humoristes ont peur des réseaux sociaux. Ils ont peur des bad buzz. Ils ont peur des algorithmes. Ils ont peur aussi de l'influence des politiques et l'influence des médias. Tout le monde surveille tout le monde aujourd'hui. Les politiques surveillent les médias surveillent les artistes et les humoristes et les réseaux sociaux. Alors eux, ils surveillent tout le monde. Donc très honnêtement, c'est très difficile aujourd'hui. On l'a vu, alors c'est différent, c'est pas Coluche, mais il est de grand talent aussi. Guillaume Meurice, qui a été écarté de Radio France. Beaucoup ont vu dans cet écartement le symbole d'un ton qui n'était plus possible d'avoir à la radio, à la télévision. Et ça remet beaucoup de choses en question. Voilà.
Alors après,
est-ce qu'on peut, avoir un humour qui dérange?
Après Coluche, pardon, je précise quand même, il s'est fait virer, hein. Oui, il s'est fait virer d'RMC. Et je crois qu'il a tenu une semaine à Radio Monte-Carlo. C'était pas RMC,
c'était
Radio
Monte-Carlo.
Ouais. On l'a pas connu. Mais c'était il y a très longtemps et il a fait une semaine, il a fait une plaisanterie sur la famille Grimaldi et c'est pas passé. Je dirais pas laquelle.
Compris.
Je dirais pas laquelle, mais vous irez sur Google, etc. Vous verrez ce qu'il a dit à cette époque-là. Il s'est fait virer. C'est quelqu'un qui, même, il pouvait pas, il passait à la télé. Alors, la télé était publique, mais quand il passait, tout le monde avait peur parce qu'on savait qu'il était ingérable, il pouvait balancer sur tout le monde.
Comme c'est un match de foot, qu'on ne savait pas qu'il allait arriver.
Il faut se souvenir, par exemple, à l'émission Droit de réponse, du fameux événement qui venait d'être pris par le groupe Bouygues, du crowbar, du dessin, un pont de maçon. Une maison de maçon, une télé de merde. Et là aussi, l'humoriste a été viré.
Oui, bah de toute façon, déplaire aux puissants, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de
qu'on attend des fous
même
du roi.
Temps des troubadours et des saltimbanques. Donc bon, voilà, c'est le rôle. Normalement, ça devrait être le rôle des humoristes, ça, d'aller contre le système. Je sais pas si Coluche allait tant que ça contre le système. Je crois que oui, il tapait un peu de tous les côtés. Le problème, c'est que c'est la population aussi qui a changé. Il y a pas que les réseaux sociaux. Les gens sont aussi beaucoup plus susceptibles.
Oui.
Et on se sent micro-agressé pour un oui, pour un non. Et puis on a tellement de multiples identités qui peuvent être multi-agressées par des micro-agressions qu'il nous faut des safe places. Alors, t'as envie de dire, écoute, va vivre dans une grotte, parce qu'apparemment, la vie en commun, ça n'a pas l'air d'être possible pour toi. Donc moi, je suis évidemment pour que tout le monde s'exprime dans l'humour, et je suis pour qu'on arrête. Tu vois, par exemple, Guillaume Meurice ne me fait pas du tout rire, mais je ne comprends pas qu'on l'ait ou poursuivi ou viré de la radio. C'est-à-dire, s'il y a des gens pour écouter ça et que ça leur plaît, moi, je dis, là, on a toujours une arme dans la main, ça s'appelle la télécom. T'es pas content, tu changes de chaîne, t'as pas envie d'écouter, tu fermes la radio. Donc voilà, alors que maintenant on est susceptible et procédurier. Aujourd'hui, Coluche, susceptible et procédurier, il aurait passé sa vie à la 17e chambre.
Il y aurait eu 25 000 signalements.
Et il y aurait eu 50 000 signalements Arcom, des menaces sur les réseaux sociaux, en veux-tu, en voilà, lui, Thierry Le Luron, etc. Donc le problème, c'est la génération d'aujourd'hui. Tout le monde devrait se poser des sérieuses questions et de se dire, est-ce que vous sentez bien dans vos baskets pour être aussi excité au moindre mot qui est sorti de la bouche de quelqu'un incapable de comprendre l'ironie ou l'implicite.
Ça m'en est l'incarnation brillante qu'avec les réseaux sociaux, les choses ont une résonance infiniment plus importante, donc des conséquences, des critiques et une judiciarisation beaucoup plus importante.
Oui, il y a beaucoup d'humoristes qui expliquent.
Très écouté, hein,
non, mais il y a beaucoup d'humoristes qui expliquent aujourd'hui, ils peuvent finalement tout dire à leur public dans une salle.
C'est ça.
Où les gens ont payé, ils savent qu'ils viennent voir. C'est ce que dit notamment, comment il s'appelle, Eboué. Il le dit, il nous l'avait dit, Fabrice Eboué, il va très peu sur le plateau télé. Il dit, parce que là, si je fais une vanne, je sais pas à qui je parle.
Voilà.
Et je suis sûr que je vais me prendre un torrent d'insultes, etc. Alors qu'avec son public, le public sait que Fabrice Eboué a un humour noir, etc., second degré, parfois piquant.
Et du coup, c'est pour ça que tu n'as plus d'humoriste populaire. Parce que Coluche, il était populaire.
Il faisait Michel Drucker. Hein.
Voilà, faisait des grandes radios très écoutées. Il parlait à tout le monde.
Peut-être quand il allait.
Maintenant, tu parles à ta clientèle.
Je me souviens,
mais. Tu parles à ta clientèle.
Peut-être que quand il allait chez Michel Drucker, il ne faisait pas certains sketchs qu'il pouvait éventuellement faire en spectacle.
Il allait loin, parce que je me souviens, Drucker était toujours gêné. Alors, en même temps, Drucker était malin, parce qu'il attendait aussi que Coluche aille loin, mais toujours il disait,
c'est son art de faire semblant d'être gêné, c'est un des talents de Michel Drucker.
Et Le Luron était encore pire que Coluche, parce que vraiment, Le Luron, il allait vraiment très très loin, et il tapait vraiment sur les puissants.
Jérôme, je me souviens de Guy Bedos sous Giscard.
Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour les conquêtes, comment allez-vous?
Ça va Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il pourrait faire tout ce qu'il faisait Coluche aujourd'hui?
Non, moi je pense que non. Bah, vous prenez par exemple l'exemple de Michel Leb qui a dû faire des excuses publiques pour ses sketchs d'avant. Moi ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi avec lui, hein. Je suis à peu près de la même génération que vous. Ce que je veux dire, c'est que en fait, voilà, il y a plein de choses qui passeraient plus de nos jours. Vous prenez le collard au chaud, l'appelez maître du samedi soir, vous croyez franchement que ça passerait?
Ah non.
Avec tous les extrémistes.
Ah non, là.
Qui regardent la télé.
Stéphane Collaro le reconnaît lui-même d'ailleurs.
Voilà, oui, il a donné une interview là-dessus. Ouais.
Comme disait Barbara, elle disait, quand on n'est pas content, on change de chaîne. Vous prenez Harry Habitant. Hein, il a été reconnu innocent. C'est pas pour autant qu'on l'invite encore sur les plateaux. Et à la rigueur, comme Patrick Bruel.
Il n'a pas été reconnu innocent.
Il y a eu un non-lieu, c'est quand même différent.
Il y a eu non-lieu.
Oui, là, on mélange tout, parce que là, vous mélangez Patrick Bruel, etc.
C'est, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la
Coluche n'a pas été condamné.
Ce que je veux dire, c'est que c'est de la vindicte populaire. C'est que maintenant, si on n'est pas content, eh ben, on regarde pas, on change. Moi, si, quand il y a un sujet qui m'intéresse pas, soit chez vous ou autre chose, eh ben, je zappe et je reviens après.
Oui, mais en même temps, il y a forcément des limites. Quand Charlie Hebdo fait une sur les enfants trisomiques, il y a quand même des limites.
Mais
quand
non,
y a,
mais
quand
tu n'achètes pas Charlie dans ce cas.
Quand Montana, les brûlés font du ski, est-ce que c'est possible?
N'achète
ça
pas Charlie Hebdo,
oui, mais
c'est
Emmanuel,
ou alors vous êtes masochiste.
On peut être choqué par ça, mais dans ce cas-là, on n'achète pas. C'est le principe de l'humour.
C'est qu'on le voit, en fait. On n'achète plus aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux.
Oui, mais ce qui est dingue, c'est que les gens sont masochistes. Il supporte pas quelque chose, mais il le regarde, et il le regarde encore, et il l'écoute encore, et il l'écoute en boucle. Mais si ça te plaît pas, t'écoutes pas, c'est tout.
Non,
vous croyez que j'écoute Radio Nova,
pardon,
non?
Mais bon, Coluche divisait. Moi, je me souviens que mes grands-parents trouvaient très vulgaire et grossier parce qu'ils disaient des gros mots. Ça, je sais pas si t'avais ça, mais ma grand-mère, j'ai pas dit des gros mots à la télé.
Il a comment?
Voilà, il y avait aussi des questions de génération.
Son slogan principal qu'il a rendu illustre, c'est l'histoire d'un mec. Toujours, c'est l'histoire d'un mec.
Qui a bien, alors celui-là, ce sketch, il a vieilli, mais effectivement, Jérôme, aujourd'hui, la limite, c'est est-ce que ça enfreint la loi? C'est une chose. Et après, c'est est-ce que je me sens vexé? C'est la société de la vexation.
Voilà.
À partir du moment où je me sens vexé, j'estime que cette personne, elle est contre moi et qu'elle n'a plus le droit de faire ou plus le droit de dire. Le problème, il est là, tu vois. Les sketchs qu'il faisait, même parfois en imitant des accents étrangers ou en prenant une voix très efféminée sur les homosexuels, est-ce qu'aujourd'hui, ça passerait encore ou est-ce qu'il y aurait une association?
Je pense que tout dépend de l'intention. En fait, de l'artiste de l'humoriste. Oui. Quand c'est fait avec une intention juste de faire rire
ou de moqueuse.
Mais pas fait pour que ce soit blessant, pas
diffamant.
Fait pour toucher ou discriminer une catégorie de personnes. Ça se ressent.
Oui, mais Sam, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se sentent blessés pour un rien. On est d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens, toi tu te sentiras pas blessé, eux ils vont se sentir blessés.
C'est fini. Merci à Jérôme. Est-ce qu'aujourd'hui, 40 ans après la mort de Coluche, est-ce qu'on peut rire de tout? Vous dites non à 75%. On se retrouve demain entre 9h et midi, bien sûr avec les GG, avec les grandes gueules. Vous avez les podcasts à votre disposition où il est question d'hypocondrie et de royauté du souverain Louis XVI. Je vous conseille d'écouter les podcasts. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. On va parler Coupe du Monde dans Estelle Midi avec l'entrée en lice de l'équipe de France ce soir face au Sénégal. Mais horaire tardif, manque d'engouement. Est-ce que ce mondial tourne au fiasco selon vous? Bah écoutez, on en parle dans un instant. Appelez-nous au 32-16. On parlera également des tags et des graffitis en hausse dans les transports en commun. Il n'y a que 4 rames de métro sur 22 sur la ligne 10 du métro qui ne sont pas tagués.
Mais où est-ce qu'on tague? Parce que ces métros...
Dans les dépôts. Dépôts, hein.
Mais ils ne sont pas fermés les dépôts?
Non. Tu peux aller comme ça, tu escalades et puis tu peux y aller. Ouais, ça sent bon les années 90, mais est-ce que pour vous les tags, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est de la dégradation? Bah ça, on en parlera à midi et demi. On parlera également de l'ouverture du Hellfest jeudi. 350 €
pour assister à ce festival.
350 balles.
Il faut aller au Hellfest.
Mais 350 balles,
oui, mais
c'est hyper cher.
Non, mais c'est 350.
Sur un terrain vague.
C'est un truc de super boomer.
Bah non, mais c'est 350 €, mais tu as accès à un village, à plusieurs scènes de concerts. Et c'est plutôt sympa, plutôt festif, plutôt
marrant. Il y a de la bière chaude. Génial. Bon, enfin, en tout cas, on va se demander, nous, si
les... C'est un peu pour bourgeois, quoi.
Bien sûr. Il n'y a que des plus de 50 maintenant où elle fait.
Non, parce que les places sont réservées un an à l'avance, quasiment.
On m'a dit qu'il y avait Mathieu Béliard.
Justement, t'as un an ensuite pour économiser.
Oui, Mathieu Béliard, il nous l'a dit.
Le fait que Mathieu Béliard y aille, ça t'a dit quelque chose du truc.
C'est intergénérationnel, elle fait. C'est l'amour de la musique et du hard rock.
350 € pour être 4 jours sur un terrain vague. Donc, les concerts et les festivals sont-ils devenus trop chers? d'ailleurs, ce sera notre question de 13h30. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo des enfants du couple Julie Depardieu et Philippe Catherine.
Oui.
Billy et Alfred.
Comme ça, là.
Donc, on va parler de ça à 14h. Est-ce que exposer ses enfants sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est sympa ou est-ce qu'au contraire, c'est dangereux?
Non, moi, je trouve que c'est dégueulasse ce qu'on dit sur ce môme. C'est des mômes. Hein.
Exact.
Je trouve que là, c'est la curée, là. C'est dégueulasse de s'en prendre
à des enfants. Oui, mais est-ce qu'il faut montrer sur les réseaux des mômes de 14 et 15 ans?
Allez, bonne émission avec Estelle. Et à demain. Merci, Sam. À bientôt.